Le troisième genre de péricope, soit dit en passant, on s'arrête même si on est en plein milieu d'un texte, d'accord? Sinon, on n'arriverait jamais à fin. Le troisième genre de péricope, c'est les gestes et les œuvres qui ont un sens typologique. C'est des signes non miraculeux. Un signe que Jésus orchestre, mais sans faire de miracle. Nous allons prendre comme exemple un des incidents les plus connus et les plus controversés des évangiles. La femme adultère. Ah, ça va être intéressant. C'est en Jean chapitre 8, versets 1 à 11. Jésus, lui, s'en alla au mont des Oliviers. Et au point du jour, il se présenta de nouveau dans le temple. Tout le peuple venait vers lui. C'est pas simplement pour planter le décor. C'est important, ce verset. Jésus se présente ici et fait œuvre de scribe, c'est-à-dire d'enseignant officiel de la loi de Moïse qui vient dans cet endroit du temple. C'est là que les scribes venaient s'asseoir et les juifs venaient poser des questions, recevoir des enseignements. Donc Jésus se pose ici comme enseignant officiel de la loi de Moïse pour le peuple. S'étant assis, il les enseignait. Or, les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère et la placent debout au milieu. Ils lui disent, Maître, cette femme vient d'être surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là, hein, de les tuer en lui jetant des pierres. Alors toi, que dis-tu? Hein, toi qui te présentes comme scribe, on veut ton opinion officielle. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Encore un piège. Jésus, se courbant, écrivait avec son doigt sur le sol. Ça n'a rien à voir, hein. C'est pas à peine d'essayer de deviner ce qu'il écrivait. Ça n'a aucun rapport. Mais comme ils demeuraient là à l'interroger, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et se courbant de nouveau, il écrivait sur le sol, mais eux, entendant ça, se retiraient un à un, en commençant par les plus âgés, et il fut laissé seul, ainsi que la femme qui se tenait là au milieu, un peu enfermée, prisonnière de cette groupe. Se redressant, Jésus lui dit, Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? Elle dit, Personne, Seigneur. Et Jésus dit, Moi non plus, je ne te condamne pas. Ici, il faut regarder, hein, condamner, ce n'est pas déclarer coupable. Alors, les autres, ils ont déclaré cette femme coupable. Elle était coupable. Condamner, ça veut dire exécuter le châtiment. OK? D'accord? Les autres sont partis, pensant que la femme était coupable, mais ils n'ont pas exécuté le jugement. D'accord? Jésus dit, Moi non plus, je n'exécute pas la sentence. Va et désormais ne pêche plus. Ça, c'est l'incident. On connaît plus. On connaît tous ça. Cet incident a très tôt posé un problème dans l'Église, parce qu'il semble conforter une attitude trop laxiste envers les adultères dans l'Église. Vous comprenez ça? D'accord? C'est un peu la même question aujourd'hui. Cela expliquera peut-être pourquoi ce passage a été dans de nombreux manuscrits anciens du Nouveau Testament remplacé par un espace vide. Là où devrait être le texte, il y a un vide. D'accord? Dans à peu près la moitié ou plus des manuscrits. Donc, ça posait problème, cet incident. Bon, pour Jésus, qui l'a orchestré, et pour Jean, qui l'a rapporté dans son évangile, cet incident est un signe. Donc, il faut chercher la signification du signe, qui va dépasser le simple événement historique. Un signe est un genre de parabole vivante orchestré intentionnellement par Jésus. Comme c'est le cas de nombreux signes, celui-ci illustre la situation spirituelle d'Israël à l'époque de Jésus. C'est le sujet d'un très grand nombre de signes et de miracles et de paraboles. Le vrai sujet du récit n'est pas l'immoralité sexuelle dans l'Église. Ah, c'est pas le vrai sujet. Historiquement, c'est le sujet, mais typologiquement, non. C'est l'infidélité d'Israël, l'Israël du premier siècle envers Dieu. C'est ça le vrai sujet. La femme adultère se tient ici comme la personnification d'Israël, l'épouse infidèle de Dieu, condamnée à juste titre à la peine de mort. À de nombreuses reprises, Jésus dénonce l'infidélité de sa génération envers Dieu. Par exemple, génération mauvaise et adultère. Jésus n'est pas en train de parler des pratiques sexuelles des Juifs. Il est en train de parler de leur infidélité religieuse. Cette génération adultère et pécheresse. Tout comme la culpabilité de la femme est avérée et sa condamnation est légitime, ainsi l'adultère spirituel d'Israël est flagrant. Sa perdition est certaine. En fait, le verdict contre Israël a déjà été prononcé par Dieu avant l'arrivée même de Jésus sur la scène. Jean-Baptiste disait déjà, race, n'est-ce pas race, le mot en grec c'est génération. Génération de vipères, qui vous donnera le moyen d'échapper à la colère qui vient? C'est la colère de Dieu. Jésus indique souvent dans les évangiles, qu'un jugement divin décisif menace ses contemporains juifs. En vérité, je vous le déclare, tout cela va retomber sur cette génération. C'est au nom de leur connaissance supérieure de la loi et leur observance supérieure de la loi que les pharisiens et les scribes se permettent d'exercer en Israël un jugement impitoyable. Ah bah oui, nous connaissons la loi. Nous sommes les meilleurs pratiquants, donc nous pouvons nous permettre de juger nos frères juifs. Voilà comment les chefs religieux du peuple regardent le peuple. Pensez, un prédicateur qui regarde les membres de l'Église ou un prêtre qui regarde les paroissiens de cette façon. Cette foule qui ne connaît pas la loi parce qu'ils n'ont pas fait des études rabbiniques, ce sont des maudits. Ils sont maudits. Eux, les chefs, et eux surtout, sont condamnés par la loi. Eux aussi, eux surtout. Eux aussi sont englobés dans la génération adultère vouée au jugement. Pire, ils sont les auteurs de la religion déformée qui est la source de l'infidélité d'Israël. Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est qui? C'est Moïse. En qui vous mettez-vous votre espoir? Vous mettez votre espoir dans la loi de Moïse. Cette loi vous condamnera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. C'est en effet de moi qu'il a écrit. Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la loi? Pourtant, aucune de vous ne la met en pratique, la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? Donc la question que Jean voit se poser dans cet incident ne concerne pas simplement le sort de cette femme, ne concerne pas simplement le péché d'adultère. La vraie question, est-ce que Jésus, en tant qu'enseignant de la loi, exerçant son ministère dans le temple, va-t-il condamner cette génération spirituellement adultère et appliquer la sentence? Est-ce que Jésus va exercer, est-ce qu'il va accomplir le verdict que Dieu a, lui qui est le Messie, que Dieu a déjà prononcé? Déjà même, dit Jean-Baptiste, la hache est prête à attaquer la racine des arbres. Mais au lieu de répondre à la question à la fois sur la femme adultère et sur Israël, Jésus refuse de condamner. Il refuse d'appeler à l'application de la sentence. Pour le moment. Et son geste d'écrire sur le sol n'a rien à voir avec le contenu de ce qu'il écrit. C'est un geste qui dit aux autres, je refuse de répondre à cette question maintenant. Mais le moment viendra où Jésus interviendra en justicier. Et ce moment viendra avant la fin de cette génération. En attendant, la mission que le Père a confiée à Jésus consiste à apporter aux condamnés d'Israël, aux coupables d'Israël, le moyen d'échapper au jugement que lui-même doit rendre un jour. À ses adversaires juifs qui le condamnent comme faux prophète, Jésus répond ceci. C'est en Jean chapitre 8. Que de choses j'aurai à déclarer sur votre compte et à juger. Si on en est à juger, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur vous. Mais non, celui qui m'a envoyé est véridique, et moi, ce que j'ai appris de lui, c'est ce que je proclame au monde. Si j'étais venu juger Israël, je ne manquerai pas de pain sur la planche, mais ce n'est pas ce que Dieu m'a envoyé faire pour le moment. Voilà un autre texte de Jean chapitre 3 qui nous apprend beaucoup sur cette question. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde. Il s'agit ici du monde juif. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien sûr, on peut généraliser, on peut universaliser, mais Jésus, dans le contexte, il parle du monde juif. Jésus est venu dans le monde juif infidèle, non pas pour exécuter le jugement déjà rendu, le verdict déjà prononcé, mais il est venu pour essayer de détourner le peuple de son péché et du châtiment qui venait. Mais les scribes et les pharisiens ne lâcheront pas leur proie. Leur proie, c'est pas la femme, c'est Jésus. Ils ne lâchent pas leur proie si facilement. C'est alors que Jésus largue sa bombe, et c'est une bombe atomique. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Pourquoi c'est une bombe? Parce qu'il s'était attendu à ce que Jésus se prononce contre la peine de mort. Il fait le contraire. Allez-y, vous n'avez qu'à appliquer la loi de Moïse et procéder à la lapidation. Il ne s'attendait pas à ça. Alors pourquoi les scribes et les pharisiens n'acceptent-ils pas la proposition de Jésus pour lapider cette femme? Rien dans la loi de Moïse n'exigeait que les bourreaux soient sans péché. C'est parce qu'ils ne cherchent pas du tout la mort de cette femme, ils cherchent la mort de Jésus. La femme n'était qu'un appât, elle ne s'intéresse pas du tout à cette femme. Jésus vient donc de déjouer leur piège. Il n'a rien dit contre la loi. Il n'a rien dit pour diminuer la faute de cette femme. Cela dit, la clause sans péché change le débat. Il ne s'agit plus de la faute de la femme contre la loi, contre l'adultère. Il s'agit de leur incrédulité face à la loi. Dans le chapitre précédent de l'évangile de Jean, chapitre 17, chapitre 7, Jésus avait mis le doigt sur leur incrédulité. Moïse ne vous a-t-il pas fait don de la loi? Pourtant, aucune de vous ne la met en pratique, la loi. Pourquoi cherchez-vous à me tuer? En Jean chapitre 5, mais sa voix, Jésus parle aux Juifs, il parle de la voix de Dieu. Sa voix, vous ne l'avez jamais écoutée. Ah ben ça, c'est dur. Jésus dit aux Juifs qu'il le condamnait parce qu'il avait guéri un homme le jour du sabbat et lui a dit de porter son lit. Or, il a violé la loi. Il a incité quelqu'un à travailler le jour du sabbat, il doit mourir. Ok. Jésus dit, la voix de Dieu, vous ne l'avez jamais écoutée. Vous n'avez jamais écouté sa voix dans l'Ancien Testament. Sa face, vous ne l'avez jamais vue. Vous ne connaissez pas Dieu, malgré votre fanatisme sur la loi de Moïse. Et sa parole, vous ne l'avez pas, qui demeure en vous, puisque celui qu'il a envoyé, vous ne croyez pas. C'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'en fait, il cherche un prétexte pour le tuer. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. C'est en effet de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Leur attachement fanatique à la loi de Moïse ne leur avait pas donné une vraie connaissance de Dieu et de sa volonté. Ils étaient tellement en contradiction avec la loi qu'au lieu d'accueillir le vrai Messie annoncé par la loi, ils cherchent à le tuer. Sur le plan typologique, Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs que si leur génération adultère devait être châtiée tout de suite, eux, ces chefs religieux, seraient les premiers à périr. Alors, Jésus se remet à écrire sur le sol. Même signification. Pour le moment, Jésus les épargne. Il leur permet de sauver la face et leur donne le temps de se convertir. Bien sûr, la question demeure. Se retire-t-il simplement pour éviter le piège de Jésus? Ou bien est-ce que son défi les a vraiment amenés à se remettre en question? On ne le sait pas. L'avenir nous montrera. Donc Jésus a délivré la femme du châtiment immédiat dont l'a menacé les scribes et les pharisiens. Et maintenant, il lui dit que lui non plus n'infligera la punition qu'elle mérite. D'accord? Quand Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas », il veut dire « Je n'applique pas la sentence ». Il ne dit pas « Je te tiens pour innocent ». Cela ne signifie donc pas que Jésus la pardonne. En Luc chapitre 7, Jésus avait dit à la pécheresse pénitente « Tes péchés ont été pardonnés, ta foi t'a sauvé, va en paix. » Voilà à quoi ressemblent les paroles de pardon. Mais à la femme adultère de Jean chapitre 8, Jésus ne dit pas des paroles de pardon et de paix. Il appelle à se repentir, à renoncer à son péché d'adultère. Le pardon, ce n'est pas la même chose qu'un appel à la repentance. Il dit, va, et désormais, ne pêche plus. Savoir si oui ou non elle est pardonnée de ce péché particulier n'est pas vraiment la question ici. L'important, c'est qu'elle se voit offrir un sursis, du temps pour chercher le salut et le moyen de chercher le salut, c'est la repentance. Le temps pour chercher le salut et le moyen, voilà ce que Jésus lui donne. Autrement, elle retombera
sous la condamnation de la loi. Telle est la situation de l'Israël infidèle, qui est le vrai objet de ce signe. La nation est prise d'un amant qui n'est pas son mari légitime. Au lieu de venir au vrai Messie, elle est amoureuse d'un faux, un empereur juif qui réalisera ses rêves nationalistes, qui dominera les nations païennes et leur imposera la pratique de la religion juive par la force. Ça, c'est le faux Messie. Ça, c'est le faux amant d'Israël. Alors, lequel choisira la femme? Faux amant ou vrai Messie? C'est elle de décider. Et lequel choisira Israël?